Vous écoutez Planète Internationale et on continue de parler avec Andrea Schmidt qui revient d'une mission d'observation avec le projet Solidarité Irak. Et je voulais aborder la question des étrangers avec Andrea, c'est-à-dire que depuis l'occupation, on a parlé en tout début d'entrevue de ces observateurs internationaux qui vont à Bagdad, qui vont en Irak pour... si on veut observer sur le terrain ce qui se passe là-bas. Il y a aussi toutes ces délégations, ces gens de l'ONU, ces gens de diverses ONG, de bon les Américains, des internationaux qui sont là-bas et qui sont, tu me disais tout à l'heure, un petit peu, ou en tout cas que tu disais dans un de tes rapports, sont carrément, il y a un apartheid, là, sont derrière des blocs de béton, ça faisait état de ces énormes blocs de béton, ces barricades de béton qui séparaient les vies qui méritent d'être protégées, des vies irakiennes. Alors, il y a un racisme inhérent dans la façon de protéger ou de gérer l'occupation. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment les étrangers sont perçus et vivent là-bas, là?
Mais c'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est la majorité des étrangers, des étrangères et occidentales qui sont là, font soit partie des forces occupantes ou ils font partie de l'administration de l'occupation. Ces gens-là, ils habitent dans la zone verte. Le restant de la ville de Bagdad, ça s'appelle la zone rouge. Et puis, on se promène pas là-bas, sauf si on est toutes dans notre gear, prêtes à être tuées. C'est vraiment ça la relation avec la population irakienne en ce moment pour la grande majorité. Les services secrets aussi, évidemment, ils se promènent et les mercenaires qui sont armés sont très évidents à Bagdad. C'était une des surprises comment les gens se promenaient vraiment comme eux-mêmes. Donc, tu vois les services secrets bien armés dans leur char avec les fenêtres c'est noirci, très très armé, très très évident comme ce qu'ils le sont. Donc encore avec cette relation antagonistique avec la population at large. Donc au moins les choses sont claires et au moins c'est clair que ces gens-là se croient méritants d'avoir ces murs en béton qui les entourent, les gardes et les militaires armés pour les protéger entre guillemets. Je m'attendais à cette dynamique-là. Ce que je m'attendais moins, c'est que c'est la dynamique entre les ONG, disons, et les journalistes aussi, qui eux aussi se protègent dans des hôtels ou dans des édifices entourés de murs en béton. C'est vraiment un peu fou à Bagdad. Tu rentres dans le Palestine Hotel ou le Bagdad Hotel, ou, c'est-à-dire le Sheraton, où se retrouve CNN, tous les journalistes internationaux. Et ça te frappe comment les gens vivent comme des pouvoirs coloniaux dans un pays du tiers-monde. La piscine, c'est là, il y a la piscine, il y a 5 personnes blanches qui se tiennent, qui nagent dans la piscine, entourées de travailleurs, de travailleuses irakiennes qui nettoient le tout, entourées de murs en béton, entourées de soldats qui protègent cette petite vie à l'intérieur d'une ville sous occupation où il y a des Apaches qui passent par-dessus la ville puis qui tirent des roquettes dans des maisons pauvres à Solar City. Donc, le contraste est vraiment énorme. Et comme moi, je me promenais un peu partout, je pouvais passer d'un quartier, à un certain moment, pas en tout temps, mais je pouvais passer d'un quartier au Hammer Hotel ou au Palestine Hotel, c'est dans le bar avec... Donc, c'était vraiment, vraiment fou, puis de voir et de vivre cet apartheid qui était presque attendu. C'était presque plus difficile de l'échapper que de vivre dans cet apartheid. Et c'est ça qui m'a aussi frappé. C'est comme ça qu'on vit, la majorité de nous autres qui vivent en Amérique du Nord. C'est ça que j'ai écrit dans le rapport. C'est exactement ce dynamique qu'on vit, même si on voit pas les murs, même si les murs sont nos frontières, plus ou moins. Et c'est une lutte importante. On doit être consciente que c'est exactement à cette dynamique-là d'apartheid qu'on doit échapper, duquel on doit libérer tout le monde. Parce que c'est une dynamique d'oppression extrême qui n'est pas supportable.
Puis non seulement il y a cet apartheid physique, mais je pense qu'on s'en parlait la semaine dernière, alors que tu revenais tout juste du contrôle médiatique, de la difficulté que tu avais à accéder à de l'information de qualité, l'information impartiale, alors que là-bas, je présume que l'information est contrôlée par la puissance d'occupation, en tout cas l'information qui est à la disponibilité des étrangers et des journalistes. Alors, il y a une espèce de cercle vicieux. Les journalistes ont de l'information relativement limitée, ce qui fait qu'ils peuvent seulement eux-mêmes retransmettre une information limitée, biaisée, etc.
C'est clair que l'information est limitée, c'est limitée de diverses manières, par exemple. Ce n'est pas juste un contrôle au niveau de la censure, etc. C'est limité pour moi, pour plusieurs journalistes internationaux, c'est limité par le fait qu'on ne parle pas arabe. Donc, on est dépendant de traducteurs si on est là. Et la traduction est toujours très politisée. Et aussi, il y a des choses qui nous échappent. On ne connaît pas la culture. On n'a pas toujours des relations. On n'a souvent pas de relations avec des gens dans les communautés qui pourraient nous raconter ce qui se passe sur le terrain. Mais on rentre, on voit peut-être ce que l'armée veut que... les journalistes voient peut-être ce que l'armée veut qu'ils voient, ou peut-être ils voient ce que un autre groupe veut qu'ils voient, mais on n'a pas les moyens et parce qu'on n'a pas bâti les vraies relations interpersonnelles entre des groupes aussi de solidarité qui nous permettraient de vraiment de faire des bons reportages qui en fait donnent la voix aux Irakiens, aux Irakiennes qui sont les plus marginalisés, les plus silencés par cette dynamique d'occupation et la réalité aussi d'occupation militaire, politique et aussi juste au niveau physique à chaque jour.
Tu parles de cette difficulté d'établir des relations, d'établir des réseaux, des contacts avec des gens qui sont en dehors de ce circuit fermé-là. Je présume aussi que dans tes déplacements, tes déplacements devaient être limités en tant que tels, mais en plus, tu devais être surveillé. Je parlais en tout début, quand je te présentais, que tu es une personne engagée, avec des convictions anti-impérialistes. Et t'arrives là-bas, je sais pas si t'étais déjà tagué, si on veut, étiqueté en arrivant avec un trouble fait. On sait qu'il y a d'autres occasions où des militants anti-impérialistes, des internationaux anti-impérialistes arrivent dans un contexte comme celui-là. Ils sont déjà étiquetés, ils sont surveillés dans leur moindre déplacement, leur moindre contact avec l'extérieur. Est-ce que tu as senti une pression comme celle-là?
Je n'ai pas senti une pression spécifique, mais c'est clair que à Bagdad, ce que j'ai rencontré, c'est tout le monde est surveillé en tout temps par tout le monde. Ici, t'es étrangère, t'es très facile à réparer parce que et si t'es une étrangère aussi qui est là en tant que t'sais, travailleur de solidarité ou militante, il n'y a pas beaucoup de personnes. On parlait avant on discutait la difficulté de créer des liens, mais c'est moins qu'il y a une grande difficulté, c'est que ça n'a pas été vraiment essayé jusqu'à date. Oui, il y a des groupes comme le Iraq Solidarity Project, le projet Solidarité Irak qui essayent, qui commencent, mais toute relation prend du temps à créer. Et à date, il y a beaucoup de reportages qui sortent de l'Irak, mais il n'y a pas des relations à longue durée qui existe Majoritairement. Il y a beaucoup de travail à faire là et beaucoup de choses à faire à Bagdad. Donc, mais en termes de la surveillance, je me sentais toujours très facile à surveiller. Je présumais que j'étais surveillée non seulement par l'intelligence américaine, mais par toutes sortes d'autres intelligences qui se trouvent, services d'intelligence qui sont là en ce moment.
Ben écoute, l'émission tire à sa fin. Je sais que tu as un projet de retourner en Irak pour une période un peu plus longue, peut-être un an. Qu'est-ce qui te motive à vouloir y retourner? Ben j'imagine que ce dont on vient de parler, la volonté de tisser des liens, ça prend plus de temps.
C'est précisément ça. C'est si je retourne, si je continue à appuyer et travailler avec le projet Solidarité Irak, qui vont eux aussi éventuellement envoyer une autre déléguée à long terme. C'est parce que je crois vraiment que la lutte pour la justice et contre l'impérialisme, contre l'oppression et l'apartheid, c'est une lutte internationale. Et que pour participer à cette lutte, il faut prendre le temps de bien s'implanter sur des bases de solidarité, de respect. Donc pour le faire, il faut être présent dans ces places comme en Irak et pour créer ces relations de lutte solidaire là.
Et Andrea, tu vas animer ou participer à un retour, à une soirée publique là, de retour sur ton séjour là-bas. C'est le 26 mai à l'UQAM. Est-ce que tu peux nous donner les détails?
C'est ça, c'est le mercredi, le 26 mai à 19h, pavillon de Sèvres ou 320 Sainte-Catherine-Est. Salle DSR 510 à l'UQAM. Pour plus d'informations sur le projet Solidarité Irak ou sur cet événement ce soir du 26 mai, vous pouvez appeler le 514-521-5252 ou envoyer un email au psi@riseup.net.
OK, donc je répète le numéro 521-5252. Pour en savoir plus ou pour éventuellement s'impliquer avec le projet Solidarité Irak. Et donc l'événement de retour, c'est mercredi le 26 mai à l'Université du Québec à Montréal. Je répète pas tous les détails, mais si les gens veulent les réentendre, 521-5252. Et vous pouvez appeler ici à la station là, pour plus de détails, au 495-2597. On va se faire un plaisir de vous fournir tous les détails. Alors, Andrea, je te remercie.
Merci.
C'était une très belle entrevue. Et puis, j'espère que tu vas, si tu souhaites y retourner en Irak, j'espère que ça va se réaliser et qu'on va rester en contact avec toi.
Merci beaucoup.
Merci. Alors, c'est l'émission Planète Internationale, Radio Centre-Ville. On revient tout de suite.